Voilà, jeunes gens, bonne fête de fin d'après-midi. Et à la prochaine, c'était Joseph qui était à nous.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Alors nous allons consacrer encore aujourd'hui notre émission au massacre de l'armée israélienne à Gaza. Les médias français, comme la plupart des médias occidentaux d'ailleurs, ne parlent pas assez de la guerre génocidaire que Netanyahou a décidé de mener contre les Palestiniens. Il le fait d'ailleurs pour se venger de l'attaque de la branche armée du Hamas contre des Israéliens en octobre 2023. En février 2024, nous en sommes déjà à 30 000 morts, peut-être plus d'ailleurs, principalement des civils et des enfants. La presse internationale est toujours empêchée par Israël de se rendre à Gaza. De très nombreux journalistes gazaouis qui travaillaient pour la presse internationale ont été tués, ainsi que leurs familles. Et le gouvernement israélien fait tout ce qu'il peut pour interdire aux médias du monde de rendre compte des massacres à Gaza. Alors aujourd'hui, des informations sont régulièrement publiées sur des sites de soutien à la cause palestinienne, et d'autres sont données par les médecins des ONG humanitaires qui ont pu travailler à Gaza et qui en sont sortis. D'ailleurs, ils témoignent pour nous. Pour dénoncer les crimes de guerre commis par les militaires israéliens, je vais vous faire entendre dans cette émission des témoignages que j'ai recueillis dans différents médias. Et nous commençons par un médecin bien connu qui est revenu de Gaza le 6 février 2024. Il s'agit du docteur Raphaël Pitti de l'ONG MEAD, qui est une organisation de santé et de solidarité internationale qui est intervenue sur de nombreux terrains de guerre. Et Raphaël Pitti a été interrogé le 9 février 2024 sur Sud Radio. Et il nous explique d'abord combien il a été difficile pour lui de se rendre à Gaza.
Non, c'est très compliqué. C'est vraiment été très très compliqué puisque je voulais y aller déjà depuis 4 mois, dès le début, aller sur place. Bien évidemment, les populations étaient prises dans la guerre. Bien évidemment, il y avait ce massacre du 7 octobre, mais il y avait l'agression aussi la réplique israélienne qui était directement dans les populations, était innocente et subissait cette violence de la répression israélienne sur elle. Et donc, il apparaissait très important de pouvoir soutenir cette population, d'aller, de voir un peu ce que nous pouvions faire en tant qu'ONG. Eh bien, c'était pas possible. Aucune ONG internationale n'avait l'autorisation des Israéliens de pouvoir pénétrer, au point que nous avons fait pour la première fois, je dis bien pour la première fois, un collectif de 15 ONG les plus importantes dans le monde, de Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde, Oxfam, Save Children, les Norvégiens, etc. Nous avons fait un collectif pour dire que c'était inacceptable qu'on ne nous laisse pas faire notre travail. Et nous continuons à plaidoyer pour un cessez-le-feu immédiat, etc. C'est la première fois dans le monde où 15 ONG les plus importantes se sont mis ensemble pour essayer de dire c'est inacceptable que sur le plan humanitaire on ne nous laisse pas rentrer et faire notre travail.
Finalement, vous avez réussi à entrer avec l'autorisation des Israéliens.
Certainement, parce que nous sommes passés par une association américaine qui a obtenu les autorisations nécessaires, y compris celles de l'Égypte et des Israël. Et il y a eu une mission médicale qui a pu pénétrer et nous étions 7 Français à pouvoir nous mettre dans cette mission médicale.
Dans
et pouvoir
cette
pénétrer.
Mission médicale. Bien. Vous êtes resté 15 jours à l'hôpital européen situé à quel endroit de la bande de Gaza?
Il est dans le gouvernorat de Yann Kounes. Khan Kounes, ça dépend comment on veut le prononcer. Et donc à mi-distance entre Rafah et la ville de Yann Kounes, à mi-distance entre les deux, environ 10
kilomètres. Dans le sud de la bande de Gaza.
Dans le sud de la bande de Gaza, oui.
Cet hôpital européen.
Oui.
Pourquoi européen?
Parce qu'il a été construit par les Européens et qu'il était financé par les Européens.
Bien. Grand hôpital?
Oui, un hôpital de 400 lits.
400 lits.
Oui.
Aujourd'hui, combien de patients?
900.
900. Hôpital de 400 lits, aujourd'hui 900 patients.
Absolument.
Quelle est la situation dans cet hôpital et autour de cet hôpital?
Alors, c'est catastrophique. Vraiment catastrophique. Je n'ai jamais vu ça. Il y a, dès que vous essayez de pénétrer, à environ déjà 40 mètres ou 50 mètres, il y a une foule énorme. Nous étions dans un minibus et on avançait tout doucement parce qu'il y avait tellement de monde autour. Et quand ils ont vu que nous étions étrangers, il y a eu un accueil extraordinairement chaleureux. Les gens nous criaient dessus, merci d'être là, etc. Nous avons pu arriver jusqu'au niveau du centre d'accueil des urgences. Et là, il y avait tout le staff de l'hôpital qui était sorti pour nous accueillir. Et c'était des embrassades que de nous voir là présents et d'être là présents. Un sentiment à ce moment-là, sur le plan psychologique, de dire enfin, on est aidé. Enfin, ils ont réussi à rentrer. La question était, mais les Israéliens vous ont-ils laissé rentrer? Ils vous ont laissé rentrer? Comment avez-vous fait? Et nous étions là avec eux. Mais à ce moment-là, c'était un chaos. C'est-à-dire, il y a ces 25 000 personnes qui sont autour de l'hôpital, qui se sont fait des abris de n'importe quoi.
Autour de l'hôpital, il y a des milliers de réfugiés.
Oui, oui.
Qui sont venus du nord, absolument, de la bande de Gaza, qui sont installés autour de l'hôpital. Pourquoi autour de l'hôpital? Pour être protégés?
Pour croire qu'ils seront éventuellement protégés. Alors que nous savons même que dans les autres hôpitaux, que ce soit à Gaza, ils ne l'ont pas été. Pendant que nous y étions, à Yann Kounes, au centre-ville, l'hôpital Al-Nasser, construit par les Égyptiens, il y avait déjà, les Israéliens avaient encerclé cet hôpital, empêchant les gens de rentrer, de sortir, et ils ont enlevé le directeur de l'hôpital, et on ne sait toujours pas où est-ce qu'il est, bien évidemment. Et là, les gens sont persuadés que le fait d'être autour de l'hôpital, ils seront protégés. À l'intérieur de l'hôpital, c'était le même chaos. Dans tous les couloirs, énormément de monde. Ils ont, pour essayer d'avoir un peu d'intimité quelque part, ils ont fait descendre depuis les faux plafonds des draps. D'accord. Et donc ils se sont fait des petites zones, des bords. Voilà, ils se sont. Mais tout l'hôpital est comme ça. Ils dorment la nuit. Alors bien évidemment, ceux qui sont à l'extérieur rentrent à l'intérieur de l'hôpital pour dormir. Il y a un chaos épouvantable. Cette population de 25 000 a des besoins de santé primaire pour soigner leurs bronchites, pour soigner leurs problématiques, pathologies chroniques, etc. Ils vont aux urgences. Au même temps, vous avez les afflux des blessés qui sont ceux des bombardements qui sont constants, jour et nuit, les bombardements, les snipers, vous avez les blessés des snipers qui arrivent essentiellement à la tête. Ils blessent et tirent essentiellement sur la tête, des traumatismes crâniens. L'hôpital est débordé, les moyens biologiques ne sont pas suffisants, bien évidemment. Il y a donc de ce fait, il assure au même temps l'accueil et au même temps le traitement, alors que normalement dans les situations comme ça, on a un hôpital de stabilisation et vous évacuez vers un hôpital de traitement. Là, ils sont obligés à la fois de stabiliser et au même temps de traiter.
Ça veut dire qu'on traite, on opère tout dans le même, en même temps. On ampute.
Et comme on n'a pas le temps, bien évidemment, d'essayer de sauver une jambe, etc., on ampute pour aller au plus vite et au plus rapide. Et surtout, dans le triage, on laisse mourir les blessés les plus graves. Des blessés qui, éventuellement, auraient mérité d'être une surveillance pour voir si on peut encore. Là, on tue. On laisse mourir. On laisse mourir toutes les plaies du crâne que j'ai vues. D'accord, on les a laissés mourir parce qu'on savait que ça allait être long, qu'il faudrait les mettre en réanimation, qu'il n'y avait pas suffisamment de place en réanimation. Donc ces gens-là étaient, comme il n'y a pas de morphine, bien évidemment, on les laisse mourir sans soutien sédatif, sans soutien morphinique. On les laisse mourir comme ça.
Vous avez déjà vu ça ?
Non. Où que je sois allé, on a toujours assisté, toujours accompagné, bien évidemment, les morituries, les blessés les plus graves que l'on savait ne pas pouvoir traiter. Parce que si nous le faisions, nous perdions du temps, nous perdions du matériel, nous avions pas les moyens, etc. Et peu de chances de sortir vivants ces personnes. Les morituries, on leur met une perfusion, on les sédate, bien évidemment, on met de la morphine et on les laisse partir tout doucement. Là, c'est pas possible. On est dans une situation de déshumanisation. Monsieur, déshumanisation de la population. Ce sont un énorme bidonville fait de briques, de brocs, de carton, de tapis, etc., qui sert d'abri. Il y a les immondices ne sont pas ramassées, bien évidemment, partout. Les évacuations ne sont pas suffisantes pour cette population. Et donc, il y a de l'eau partout, c'est de la boue, ça stagne, les gens ont des problèmes pour se laver, il y a très peu de toilettes par rapport à ça, ils font la queue. Enfin, c'est une situation...
1 300 000 réfugiés dans le sud de la bande de Gaza.
Oui.
Rafah, c'est 250 000 habitants, il faut le savoir.
Exactement. Et c'est une situation où vous avez une populace qui est là, dans les rues, qui essaye de trouver à manger, qui fait la queue pour avoir du pain, qui fait la queue pour avoir de la farine, qui fait la queue pour essayer même de charger leur téléphone.
On peut encore acheter.
Oui, on peut acheter.
Il y a encore des endroits, des épiceries, des points de vente.
Oui, il y a des marchands ambulants. On vous vend des boîtes de conserve de viande. On vous vend du fromage aussi, etc. Vous avez des légumes aussi, etc. Mais les gens n'ont pas d'argent. On les a chassés au même temps. Ils ne peuvent pas accéder même l'argent qu'ils avaient en banque. Ils ne peuvent pas y accéder. Donc ils se retrouvent sans rien. Les prix, c'est 2-3 fois le prix normal. Vous ne trouvez pas d'œufs. L'œuf fait un peu moins de 1 euro.
Un euro.
Et vous n'en trouvez pas. Pas du tout. Vous ne trouvez pas de poulet, vous ne trouvez pas de viande, vous ne trouvez rien de cela. Ils sont complètement dépendants de l'aide humanitaire internationale. Il y a une situation de tension. Toute dispute, et Dieu sait si c'est facile, la dispute, vu la masse, les choses, les frictions entre les hommes, etc., compte tenu de cette densité de population qui est là en train d'attendre, qui ne fait rien, qui cherche justement cette nourriture, qui vit dans des conditions qui sont indignes, ils sont sales, bien évidemment. Eh ben, c'est une dispute, et la dispute devient une émeute, où tout le monde s'en mêle, à ce moment, et prend parti.
Oui.
Jusqu'à ce que j'ai pu assister à cette scène où ça commence par une dispute, ça devient une émeute, le type essaye de s'enfuir, poursuivi par une populace qui veut le lâcher, presque, il essaye de rentrer à l'intérieur de l'hôpital par le service des urgences, la foule le poursuit en criant, et à ce moment-là, le garde tire en l'air pour essayer de calmer la foule.
Vous dites, ça ressemble au ghetto de Varsovie.
Écoutez, de tous les films que nous avons pu voir, ces films documentaires, on voyait ça, cette population qui erre dans les rues de du ghetto, etc. On voyait on voyait en même temps ces images des gens qui étaient dénutris, qui mouraient de faim, les enfants, etc. On voyait les petits métiers, n'est-ce pas, le cordonnier qui est sur le bord de la route, qui répare de vieilles chaussures. On voyait ces gens avec les machines à coudre qui réparent les vêtements, etc. C'est ce que vous voyez. C'est ce que vous voyez là-bas. C'est exactement cette image-là.
Vous parlez de génocide ?
Écoutez, si vraiment Netanyahou envisage d'attaquer Rafah, vous voyez la description que j'en fais de Rafah, cette situation où les gens ont perdu leur dignité, où les gens sont concentrés, où les gens ont faim, où les gens vivent une situation comme ça. S'il envisage dans cette situation d'attaquer Rafah, alors on peut lui faire ce procès d'intention, c'est-à-dire de vouloir massacrer cette population.
Dites-moi, docteur, est-ce qu'Israël détruit Gaza sans détruire le Hamas, selon vous ?
Vous voulez mon sentiment ?
Oui.
Vraiment ?
Oui.
Israël a perdu la guerre. Ce gouvernement est en train de faire de l'État d'Israël un paria de la communauté internationale. État d'Israël devient le paria de la communauté internationale. Il ne respecte plus aucune loi, règlement internationaux. Les bombardements sont jour et nuit. Et ils ont été jusqu'à nous, au niveau de notre hôpital qui a fait souffler les faux plafonds. Jusqu'à tout proche de notre hôpital. Il y a les snipers qui tirent sur tout ce qui bouge, etc. Il y a les drones tueurs. Il y a une surveillance constante, jour et nuit, d'un bourdonnement énorme de ces drones de surveillance qui tournent en permanence, jour et nuit, etc., et qui est insupportable pour toute cette population. Et il y a les conditions de vie dans lesquelles ils sont. Est-ce que c'est acceptable ?
Vous n'aviez pas vu ça à Mariupol ?
À Mariupol, on a cette stratégie russe qui avait été mise en place déjà à Alep, qui consiste à assiéger une ville. C'est ce qu'ils voulaient commencer à faire à Kiev, assiéger la ville de Kiev, et ils ont fait ça à Mariupol. Et ensuite, c'est les bombardements complets.
On écrase,
on leur coupe l'eau, l'électricité, etc. Et les gens se terrent dans les caves sans pouvoir sortir ni rien, mais ils sont dans des abris. Il n'y a pas d'abri à Rafah. Il n'y a pas la possibilité de s'extraire de la violence, c'est-à-dire de partir à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Il n'y a pas de possibilité. Ils sont 1,4 million complètement pris dans cette nasse. 1,4 million.
Ils détournent ton histoire. Mais au fond, ils savent très bien. Bafoué par des ignares qui aboient trop fort, mais toute la terre est témoin. Enclavé comme du bétail par celui qui t'a volé ta terre. Seul au monde à la merci de l'oppresseur qui veut te voir disparaître. Et les puissants soutiennent celui qui veut ta battre. Des pluies de missiles comme si vous calomnier même sous les bombes, font tout pour déshumaniser. L'oppression se compte en générations, mais diront que c'est toi le monstre à l'arrivée. Prendront soin de jamais mentionner l'apartheid. Prendront soin que jamais la paix se négocie. Les médias, eux, oseront appeler ça la guerre. Mais une armée contre un peuple, c'est un génocide. Et les puissants soutiennent celui qui veut t'abattre. Des pluies de missiles comme s'ils voulaient créer de la cave. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Et les médias diront que c'est pas grave. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats. Les médias diront que c'est pas grave. Sous les yeux du monde meurt Gaza. Terre sacrée est abreuvée de sang. L'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif. Terre sacrée est abreuvée de sang. Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif.
Après cette chanson pour Gaza, écrite, composée et enregistrée par la rappeuse Kenny Arcana, Je vous rappelle que dans notre émission Civis Pacem d'aujourd'hui, nous écoutons les témoignages de médecins qui ont pu se rendre à Gaza, qui ont vu le résultat des massacres de l'armée israélienne et qui en reviennent horrifiés par ce qu'ils ont vécu. Vous avez entendu le docteur Raphaël Pitti qui nous a dit dans quel état catastrophique était l'hôpital européen de Gaza, dans lequel il a opéré. Raphaël Pitti veut interpeller les gouvernements occidentaux pour qu'ils interviennent à Gaza. Et pour cela, il essaie d'ailleurs de faire le tour de tous les médias possibles. Un autre médecin qui était avec lui à Gaza au début du mois de février 2024 témoigne aussi dans l'émission « C'est ce soir » du 15 février 2024. Nous l'écoutons.
D'abord, je me tourne vers vous, docteur Ben Boutrif. Je rappelle que vous avez passé 2 semaines aux côtés du personnel de l'hôpital européen à Gaza, donc qui se situe plutôt dans le sud de l'enclave. Pour préparer l'émission cet après-midi, on vous a appelé et vous nous avez dit « J'ai fait du SAMU, j'ai vu les accidents d'autobus, mais là, c'est une médecine de campagne de 14-18. » Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Tout à fait. On se retrouvait en face de blessés, avec des atteintes, des délabrements, des arrachements, des éclatements de tête. Et on n'avait pas de moyens. Donc le travail, c'était des secours portés à même le sol. Pas de brancard, pas de place. Un hôpital totalement envahi par la population qui vient pour se réfugier, pour se protéger contre les bombardements. J'ai l'impression qu'on faisait du travail de ce que faisait il y a 110 ans la médecine dans les tranchées. Donc on le faisait à l'hôpital même.
Comment on fait pour exercer la médecine dans ces conditions-là ?
Effectivement, parce que la médecine était au bout de ses limites et donc il y a beaucoup de patients qu'on ne traitait pas. Donc on classait déjà morts alors qu'ils ne sont pas morts.
C'est-à-dire que vous devez trier a priori tri. Ce que vous pouvez ou pas soigner.
Voilà. Et je viens, j'ai montré une photo, je viens de la voir, de Khan Younes, une dame qu'on avait classée morte. C'est une dame qu'on n'avait pas de nom. Elle était retrouvée avec une balle à l'arrière du crâne. Et elle était presque inconsciente, elle avait quelques réflexes. J'étais avec docteur Pitti, et notre infirmière était avec nous. On dit, cette dame, on va essayer de la sauver, de faire quelque chose, de la mettre en réanimation 3-4 jours pour voir l'évolution. Et ça a été refusé, donc on l'a mis dans un coin, sans sédation, sans perfusion. Et on m'envoie une image, on me dit, cette dame s'est réveillée après plusieurs jours. Et elle s'est souvenue et elle a donné le numéro de téléphone de sa famille.
Qu'elle a pu retrouver ?
Voilà. C'est un bonheur de l'entendre.
Donc il y a des... Malgré tout, des petites victoires. Mais ce que vous nous avez dit aussi, c'est que plus de la moitié des patients qui entrent à l'hôpital ne survivent pas, faute de moyens.
Oui, on est dans plusieurs difficultés. La majeure partie des patients et des blessés n'arrivent pas jusqu'au dernier hôpital, qui est l'hôpital européen. Les 12 autres grands hôpitaux, ils ont tous été soit bombardés, soit endommagés et encerclés.
Donc l'hôpital européen, c'est le dernier hôpital en état de marche.
Hôpital. Les autres, c'est des petits centres d'urgence ou des maternités. Il reste quelques-uns. Mais le dernier hôpital, proprement dit, c'est l'hôpital européen qui se trouve à Khan Younes. Mais cet hôpital, malheureusement, est quasiment paralysé par le nombre de personnes qui s'y trouvent. Il est envahi par des réfugiés, des gens déplacés à qui on a promis la sécurité, la vie sauve, s'ils se déplaçaient dans le sud de la bande. Mais maintenant, on est en train de les menacer de bombardement.
On voit, en même temps que vous parlez, quelques-unes des photos que vous nous avez envoyées, que vous avez prises sur place. Je précise à nos téléspectateurs et téléspectatrices que vous nous avez aussi envoyé des photos beaucoup plus dures, des corps mutilés d'enfants entre la vie et la mort. Ces photos, on a choisi de ne pas les montrer parce qu'elles sont très dures à voir. Et vous nous avez aussi envoyé des images de ce qui se passe à l'extérieur, autour de l'hôpital. Votre collègue avec qui vous étiez sur place, Raphaël Pitti, parle d'une population qui a été, je le cite, complètement déshumanisée.
Oui, une population à laquelle on a enlevé toute tout traitement de l'être humain. Donc ils sont affamés, ils sont battus, ils sont déplacés, ils sont expropriés, ils sont ciblés, tués. Donc aucun respect, aucun sentiment de compassion vers l'autre. Et malgré ça, on retrouve encore le sens de l'humanité, le sens des rapports humains chez cette population.
Donc, vous l'avez dit, pour vous, les civils gazaouis sont délibérément ciblés par l'armée israélienne.
On est parti, on ne savait pas à quoi. On allait être confronté, et puis voilà, on s'est rendu compte, on recevait que des civils. Que des civils, des femmes, des hommes, des civils. Dans les 15 jours, on était. La mission, elle comportait 21 médecins, dont les 7 Français. Et à aucun moment, on a soigné, on a pris en charge ou a vu un combattant. Donc, et tout ce qui a été fait, c'est une action faite sur la population civile. Ça fait mal au cœur quand on se rend compte de ça. C'est des enfants, des femmes, des vieillards. J'ai un exemple, une dame qui était coincée sous les décombres pendant 2 mois. Et on l'a reçue à l'hôpital européen. Elle a été affaiblie. Pendant 2 mois. Ils ont réussi à lui passer l'eau et la nourriture. Et voilà, on l'a examinée, on a fait des examens. On l'a gardée 24 heures et on l'a laissée repartir.
Seuls les médecins qui ont été autorisés à entrer à Gaza, pour de courtes périodes d'ailleurs, peuvent aujourd'hui témoigner de l'état catastrophique imposé à la population palestinienne par l'armée israélienne. Le mardi 13 février 2024, à l'Assemblée nationale, la délégation de parlementaires qui s'est rendue à Rafah en février 2024, à l'initiative d'Éric Coquerel, mais qui n'a pas eu l'autorisation d'aller dans Gaza, a reçu les médecins humanitaires de l'association PALMED France qui reviennent de Gaza. Ces professionnels de santé, dans les conditions extrêmes imposées par le conflit, ont été les témoins directs des effets dramatiques du blocus total. Leur expérience sur le terrain, face au manque d'eau, de nourriture, de médicaments, ainsi qu'aux conséquences des bombardements, est essentielle pour nous éclairer sur l'une des crises humanitaires les plus graves de ces dernières années. Alors, ces médecins se sont exprimés à l'Assemblée nationale devant des élus de la République. Nous les écoutons.
Oui. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis HMEG, je suis le président de PALMED de France. Je remercie Monsieur le député Porte pour nous inviter. C'est un honneur pour nous d'être là et avec vous. Nous sommes reconnaissants de votre engagement à côté de notre peuple. Nous vous remercions. Juste pour quelques mots de PALMED. PALMED, c'est une association européenne. Nous sommes présents dans 10 pays d'Europe depuis 2008. On a des projets avec les hôpitaux palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, même dans les camps de réfugiés au Liban. On a déjà envoyé des missions médicales de manière régulière, même avant la guerre actuelle. On envoie des médicaments à Gaza. Si on organise des formations pour nos collègues des médecins palestiniens, soit de Gaza, soit de Cisjordanie, même de Liban, de camps de réfugiés de Liban, qui viennent ici en France pour faire des stages de formation dans les hôpitaux français. Et je remercie encore une fois et je laisse les paroles à mes collègues.
Bonjour à tous, je me présente, moi c'est le docteur Bouchakour Chemseddine. Je suis anesthésiste réanimateur, j'ai eu l'honneur et le privilège d'aller à Gaza. Alors c'est un peu particulier quand j'ai des privilèges, mais honnêtement pour moi c'était le cas. Sinon par rapport à ma partie soignant, moi, je suis anesthésiste, donc je travaille au bloc opératoire et je gère ce qu'on appelle les polytraumatisés, c'est-à-dire les patients qui sont graves. Et les patients qui sont graves, en réalité, c'est pas les plus graves. Enfin, j'ai envie de dire, avant qu'ils arrivent au bloc opératoire, ils meurent pour une grande partie avant. Je m'attendais à voir un peu plus en fait de patients au bloc opératoire, et j'ai une remarque à apporter, c'est le nombre d'enfants au bloc opératoire. En fait, au final, les enfants et les vieillards, il n'y en avait pas tant que ça proportionnellement à la population. Mais une lecture rapide des événements m'a fait comprendre que, tout simplement, les enfants, ils n'ont pas le temps d'arriver au bloc opératoire, puisqu'ils meurent avant. C'est pour ça, en fait, qu'ils ne sont pas surreprésentés, alors que les images que j'avais, moi, avant de partir, c'était, je m'attendais à soigner plus d'enfants, mais en fait, en réalité, c'est parce qu'ils meurent juste avant. Et les conditions de travail à l'intérieur de l'hôpital, les images sont là pour le prouver, ils sont très difficiles. Les collègues médecins palestiniens que je salue par ailleurs, et puis les soignants aussi, ils font un travail formidable. La plupart, ils ne sont pas rentrés chez eux depuis le début de la guerre. Tout simplement pourquoi ? Parce que, d'abord, ils n'ont pas où entrer. Pour la plupart, ils ont perdu en fait leur maison. Et ils ont tous une histoire à raconter. C'est-à-dire à chacun, quand on discute avec eux, quand on prend le temps de discuter, ben, ils ont tous une histoire à raconter, que ce soit la perte d'un être cher, ou bien la perte en fait de leurs parents, ou bien ils se posent des questions sur l'avenir. Ils font du bon travail, dans des conditions qui sont difficiles. Le deuxième point, c'est le nombre d'infections. C'est-à-dire que moi, mon travail, c'était d'endormir les patients pour qu'on puisse faire les changements de pansement. J'ai eu l'occasion, en fait, de raconter ça, où il y a beaucoup de patients qui doivent revenir au bloc opératoire pour les changements de pansement qui ne peuvent se faire que sous anesthésie générale. Donc, on est obligé de les endormir parce que c'est des pansements, en fait, qui sont très, très douloureux. Et ça, c'est tous les 48 heures, et même avec les pansements, les changements de pansements, toutes les 48 heures, eh ben, on arrive à avoir quand même en fait beaucoup d'infections, et du coup, après, ben, on est obligé, par exemple, pour les amputés, de monter un petit peu. C'est-à-dire qu'il n'y avait que la mi-jambe, là, après, on passe à la mi-cuisse, parce qu'en fait, le moignon, il est infecté. Et ça, c'est un vrai problème, l'infection qui existe là-bas, et parce que on a affaire à des patients qui sont dénutris, on a affaire à des conditions d'asepsie ou de propreté qui sont un petit peu limites, mais vu le contexte, avec 30 000 personnes qui vivent à l'intérieur, c'est tout à fait normal. Et puis, parallèlement à ça, il y a d'autres patients qui arrivent, donc il faut les absorber, c'est-à-dire les patients qui viennent suite à des bombardements, suite à des blessures. Et là, je rajoute autre chose par rapport à ces blessures. C'est quand même impressionnant le nombre de blessures qui concernent l'abdomen, le thorax et souvent la tête. Voilà. Donc ça, il y en a beaucoup. Je parle du service de réanimation de l'hôpital européen. Alors, c'est une catastrophe. Le taux de mortalité, il est phénoménal. C'est-à-dire que tous les patients, en fait, en réalité, les blessés, ils s'en sortent pas pour la plupart. Ils meurent, ce qu'on appelle à J2, deuxième jour, troisième jour ou une semaine après. C'est-à-dire que on les soigne, mais malgré tout, bah, il y en a qui s'en sortent, et tant mieux. Mais pour la plupart, ils meurent en réanimation. Voilà. Sans compter, en fait, parce que le système de santé, il n'est pas fait uniquement pour absorber ces patients de guerre, mais il y a aussi les autres patients, ils ont le droit de se dégrader. Je pense aux patients diabétiques, je pense aux patients, en fait, hypertendus, cardiaques et insuffisants rénaux. Alors, pour la petite information, c'est que tous ces patients-là, ils n'ont pas de traitement actuellement pour la maladie chronique, parce que il y a cet embargo. En tout cas, là, actuellement, ils prennent plus de traitement. Et ça rajoute au drame autre chose, c'est que les patients, ils meurent pas par bombardement, mais en réalité, en fait, ils meurent par manque de traitement. Et j'ai dit un mot il y a quelques jours, je me suis posé la question personnellement. Est-ce que le fait de mourir dans ce système-là, en soi, et ça peut vous choquer, est-ce que c'est pas une chance en soi? Parce qu'en réalité, ceux qui ne meurent pas, et chez qui on fait des pansements régulièrement, ils finissent par mourir, mais dans la souffrance. Voilà. Et donc, on peut se poser la question, des fois, en fait, je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas eu de la chance, en fait, finalement, que ça se termine, et puis voilà, quoi. Voilà. Je suis désolé, en fait, de le dire de la sorte, mais ça, c'est la réalité de ce que, moi, j'ai pu constater sur le terrain.
Les pas deviennent lourds, les jambes ne suivent plus. Vois ses frontières, l'horizon s'étale en continu. Hypocrisie, parle des droits de l'homme à la terrasse d'un yacht sous le soleil de midi. Quelle justice, c'est une purge quand ceux qui exécutent sont aussi avocats et juges. Blâme qui persiste sur cette terre qui t'a vu naître. Vivre est un acte terroriste, mais c'est plus fort que toi. Y'a cette voix dans un coin de la tête du disque qui t'y résiste. Les balles sur toi n'ont qu'à se loger. Le renoncement est une mort si amère, plus dur à porter. Résister, c'est avant tout exister. Cette soif de liberté pour chaque soupir expiré. Cette fierté dont le plus grand des malheurs te pousse à relever la tête devant tes oppresseurs d'égal à égal. Au moins, ils ont en face des êtres humains, non pas des chiens. Qu'ils ont en face des pères, des mères de famille au pied d'un mur. Des gosses ne rêvant que de conjuguer leur vie au futur. Ils croient éteindre la flamme d'une bougie. Mais regardez nos cœurs, c'est un incendie. Oh combien monte le courage de ce peuple, refusant de s'agenouiller devant la troisième armée du monde. Que là-bas ils fêtent chaque jour le carnaval. Leur crime atroce se déguise en frappe chirurgicale. Malgré cela, quel exemple. Regardez leurs genoux fixés. Regardez les vôtres comme ils tremblent. C'est vous qui massacrez à bout portant. Vous qui aspergez toute une population phosphore blanc. Vous qui démolissez leurs toits, leurs écoles, leur labeur. Et pourtant, c'est vous qui vivez dans la peur. À fleur de peau, car à chaque corps sans vous laisser, vous trouverez quelqu'un qui portera le drapeau. Pour chaque âme volée, vous trouverez 10 qui se lèveront, 10 qui se battront et 10 qui tomberont. Et pour ces 10 qui tomberont, vous trouverez 1000 qui se lèveront, 1000 sur le front, 1000 qui tomberont devant ma plainte de sang noyé dans l'impunité. Jusqu'à trouver en face, digne et fier, un peuple entier se dresser. Que ce jour soit le mien, que ce jour soit le tien, car aujourd'hui nous sommes tous des Palestiniens. Aurait pu être le leur. Vous savez, Parfois des murmures, quand ils se croisent, peuvent entamer le mur d'un colisée. Qu'il soit franchi. Génération Palestine, Code Rouge, Amel Matlouti.
Vous venez d'entendre la chanson Horizon du groupe Génération Palestine avec la chanteuse tunisienne Amel Matlouti. Dans les pays arabes, et particulièrement en Tunisie d'ailleurs, les populations ont réagi au massacre du peuple palestinien, et ce, contrairement aux dirigeants des pays arabes qui sont restés très discrets. Il faut dire que la presse internationale est toujours interdite d'entrer à Gaza et que les informations sont rares ou remises en cause par les pro-israéliens. Seuls les médecins ont pu témoigner dans l'hôpital européen de Gaza et ils ont pu informer sur le drame humain qui se joue d'ailleurs dans cette bande de Gaza. Dans notre émission Civis Pacem, j'ai choisi de vous faire entendre ces témoignages. C'est au tour maintenant d'une infirmière qui s'est exprimée à l'Assemblée nationale de France dans le cadre d'une réunion organisée par des élus de la République. Alors nous écoutons son témoignage.
Je suis Marie Filman, infirmière qui... Pardon. Je suis donc infirmière, urgence, réanimation et anesthésie. Donc je reviens de... il y a une semaine, de Gaza, donc à l'Européen, avec mes collègues ici présents. C'est très difficile encore. Je vais essayer de compléter, mais et pourtant, je suis très très interpellée par ce qu'elle vient de dire mon collègue, parce qu'on n'a pas beaucoup débriefé entre nous. On n'a pas eu le temps, on a retrouvé nos familles. Et je suis très d'accord avec ce que tu as dit. Alors, pour un peu contrebalancer, Shem, c'était au bloc opératoire. Donc, quand il dit qu'il a... vu un autre flux, moi j'ai vu une autre population, c'est que j'étais aux urgences. Donc vous imaginez bien ce que signifie ce service, c'est-à-dire c'est le premier service en lettres clignotantes à l'entrée de l'hôpital, c'est-à-dire que tout arrive et nous nous dispatchons. Donc autant vous dire que j'ai eu quotidiennement des patients arrivés déjà morts sur des civières ou portés par leur famille. J'ai eu des patients arrivés sur des charrettes tirées à dos d'âne parce qu'il n'y a plus d'essence pour amener les morts ou parce que les ambulanciers ont trop peur de se déplacer dans certaines zones. J'ai déjà eu un âne arrivé qui est mort devant les urgences parce qu'on lui a tiré dessus sur le trajet. Et donc les patients qui arrivent déjà morts, on en a tous les jours. C'est-à-dire que les familles vous amènent leurs proches décédés. Je parle également d'enfants, mais ils n'y croient pas, donc ils vous l'amènent quand même. Il est souvent décédé dans la nuit, hein, ils ne nous l'amènent pas dans la minute. Et il est déjà froid, c'est déjà un cadavre, hein, pas d'autre terme. Il faut dire les choses comme je les ai ressenties. Et on vous regarde. Et comme vous êtes la seule étrangère du service, on estime que vous avez peut-être des compétences à pouvoir réanimer meilleures que celles de leurs médecins locaux. Et non, vous annoncez qu'il est mort et qu'on ne va rien faire. Donc ils repartent avec en hurlant, mais toujours en vous respectant. Donc ça, c'est pour la partie très matinale, parce qu'ils ne se déplacent pas la nuit. Ils ont très peur de se déplacer la nuit. Et ensuite, la journée donc commençait à peu près au lever du soleil et elle était très intense puisqu'on essayait de travailler avec en soignant les enfants. Beaucoup de plaies de la face, beaucoup d'exorbitation, un deuil qui n'existe même plus, de plaies de la tête, de la face, de l'abdomen. Comme l'a dit Shams, hein, ils savent vous viser. Et puis des fratries aussi, j'ai déjà eu des fratries aux urgences. Moi je sais que mon collègue Khaled, qui prendra la parole après, est urgentiste et je l'ai vu. Pourtant il est médecin urgentiste, alors moi on peut dire que je suis une femme ou une infirmière ou voilà. Mais mon collègue urgentiste, je l'ai vu et j'ai vu même docteur Piti désemparé face à la situation. Je les ai vus en leur disant on y va. Et qui me disent mais est-ce que je peux avoir un brancard Iman? Mais il n'y en a pas. Non mais là il faut qu'on la réanime sur un brancard. Mais j'en ai pas les gars, tu te souviens? Donc les conditions sont chaotiques, ça c'est pour vraiment ce que j'ai vécu au service des urgences. Moi je faisais ma journée, 80% de ma journée aux urgences, et ensuite j'allais en réanimation pour essayer de voir où en étaient les patients que j'avais intubés dans la journée. J'ai fait beaucoup d'actes médicaux qui en France je n'aurais pas le droit de faire, mais parce qu'aux urgences il y a beaucoup d'étudiants en médecine. J'ai eu la chance de travailler avec des médecins et des anesthésistes qui ont toujours été très très encadrants et je les en remercie aujourd'hui parce que tout cela m'a servi à faire des sutures de plaies très complexes, à intuber, faire des ponctions d'acide, faire des actes qui ne sont pas du tout des actes infirmiers. Et ensuite, quand j'allais en réanimation, voir où en était le patient qu'on avait apporté dans la matinée, qu'on avait transféré dans la matinée, et 9 fois sur 10, il était déjà décédé ou décédé le lendemain. Effectivement, le taux de mortalité est fou. On pourrait se demander pourquoi, puisqu'on a réussi à le réanimer aux urgences, mais les moyens ne suivent pas. Il est intubé, il faut pouvoir... C'est tout simple, mais... un patient qui est intubé, on va utiliser des médicaments qui vont... amener une production de mucus. Donc il faut aspirer ce mucus, sinon le patient s'étouffe. Quand vous avez un souci, vous toussez, il y a du mucus. Voilà. Là, il faut l'aspirer. Le système d'aspiration est HS, ou trop faible, ou je n'ai pas la sonde d'aspiration. Par exemple, ils n'ont pas de sonde d'aspiration de bonne taille. Ils n'ont que des minuscules sondes d'aspiration. Les conditions d'hygiène sont... catastrophique, mais vraiment, ils font du mieux qu'ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils n'ont que... c'est-à-dire qu'une désinfection se fait en 4 temps, ils n'ont que le 4e temps, ils n'ont pas le premier, le deuxième et le troisième. Ils le font quand même. Ils essayent de le faire quand même. Alors, ils le font plusieurs fois sur des champs très larges, ils essayent. Moi, j'ai déjà été stoppée dans mon mouvement, parce que, attends, d'abord, on nettoie. Voilà, ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Ils ont une humanité et une dignité que je n'ai jamais rencontrée auparavant. Et je veux les saluer pour ça. Voilà, donc ça, c'était un peu pour la partie médicale. Ensuite, pour la partie plus humaine, l'hôpital est un lieu de vie avec beaucoup, beaucoup d'enfants qui n'ont plus de jeu du tout. Si c'était à refaire, je n'emmènerais pas de matériel médical puisque je n'ai été... L'impact a été beaucoup trop faible dans mes petites valises. J'amènerai du chocolat, du café, beaucoup plus de bonbons que les 4 kilos que j'ai emmenés. Et j'apporterai du sourire plus que du soin, finalement, en tant que tel, puisque au final, à quoi ça sert? Ils sont tous amputés, ils finissent infectés, ils meurent. Donc autant apporter un peu de bonheur, parce que leurs conditions de vie sont déplorables. Depuis mon retour, je vais vous le dire de la manière la plus triviale que je le vis, depuis mon retour, j'ai l'impression d'être dans un monde de fous, de devoir expliquer qu'il y a des gens qui meurent. En 2024, il y a des réseaux sociaux, il y a des médias, et de devoir dire qu'il y a des enfants. Oui, man, t'es sûr que tu as vu des enfants mourir? Oui. J'ai moi-même aidé à extraire des balles de tête d'enfants, de visages d'enfants. Donc oui, il y a des enfants qui meurent, des femmes. Il y a les morts directes et il y a les morts indirectes. Je crois que notre étendard à nous tous sera Abir, 24 ans, maman d'un enfant de 4 ans, qui a perdu son bébé in utero. Vous en avez peut-être tous entendu parler, d'accord? Et qu'on a perdu 24 heures plus tard parce que, j'en tremble, parce que dans la cassette de gaz du sang pour faire les examens, il nous restait 11 possibilité d'examen. L'appareil vous dit combien de possibilités d'examen vous avez sur le reste de la cassette. Il en restait 11. Et je me revois poser la question, Khaled, tu étais là. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire une surveillance horaire? La réponse est Iman, on a 14 patients en réanimation. Si on utilise les 11, on n'est même pas sûr de la sauver déjà. Et ensuite, comment on fait pour les autres qui vont arriver? Et on ne sait pas si on va recevoir d'autres cassettes. Pour la petite histoire, ils en ont reçu une 3 ou 4 jours après. Ils ont passé plusieurs jours sans gaz du sang. Donc elle est décédée, cette maman. Ce n'est pas une victime de tir, c'est une victime de la guerre.
Une victime de la guerre, dit cette infirmière des urgences qui rentre d'une mission dans l'hôpital européen de Gaza. Et c'est bien sûr cette guerre qu'il faut dénoncer et demander que les puissances occidentales interviennent pour la faire cesser au plus vite. Mais condamner le gouvernement israélien est considéré par beaucoup de gouvernements occidentaux comme faire preuve d'antisémitisme. Alors il faut écouter les personnes que l'on ne peut pas soupçonner d'antisémitisme, c'est-à-dire les membres de l'Union juive française pour la paix. Le 11 février 2024, Béatrice Aurès et Michel Siboni, porte-parole de l'Union juive française pour la paix, étaient interrogés sur une chaîne YouTube. Nous allons écouter leur témoignage, sachant que Béatrice Aurès est notamment co-autrice de « Parcours de juifs antisionistes en France », qui a été édité aux émissions Sileps en 2022, et que Michel Siboni a vécu 4 ans en Israël et a gardé des contacts étroits avec des militants antisionistes israéliens. Alors, nous les écoutons.
L'UJFP a été créé en 1993 après les accords d'Oslo par un groupe, et notamment Richard Wagman. Et le pôle d'activité au départ, c'était donc l'égalité des droits en Palestine-Israël, l'autodétermination des Palestiniens, le droit au retour des Palestiniens sur leur terre, desquels ils avaient été expulsés. Et au fur et à mesure des années, nous avons dû travailler sur un deuxième pôle d'activité, l'antiracisme politique, puisque malheureusement, au fur et à mesure des années, la politique française devenait de plus en plus raciste et on considérait qu'il y avait un racisme d'État. Et il y a une dizaine d'années, il y a déjà pas mal de temps, on a commencé à lutter contre l'islamophobie, alors que c'était mal vu. Et peut-être à cause de ça, on pourrait dire qu'on était un petit peu mis de côté par certains groupes qui n'avaient pas encore fait ce travail de lutte contre l'islamophobie, qui était un racisme institutionnel, évident dès le début, enfin depuis toujours d'ailleurs, puisque la France est un État colonial et a gardé dans l'esprit politique de la France, c'est resté un État colonial, quoi qu'on en dise.
Eh ben, écoutez, on est tous et toutes des citoyens de ce pays, donc on voyait ce qui s'y passait. On se rendait bien compte depuis la deuxième intifada, hein, qu'on a vécu dans l'UJFP et en relation avec Israël. On se rendait bien compte que y avait un vrai problème dans la manière dont les gens essayaient de lutter contre la critique d'Israël. La deuxième intifada avait provoqué beaucoup de critiques très fortes, hein, dont quelque chose qui ne serait pas imaginable aujourd'hui, le vote du Parlement européen en 2002 qui condamne explicitement Israël et demande des sanctions économiques. Aujourd'hui, dans la situation qu'on connaît, qui est la pire qu'on ait jamais vue, à part 48, c'est pas possible, et ça l'était en 2002, donc c'était très angoissant pour les sionistes. Et donc faire taire sur ça, c'était utiliser l'antisémitisme. Or, on est une association juive et qui est composée de gens qui sont des juifs et qui disent pas en notre nom, si vous voulez, c'est ça l'idée. Donc cette utilisation de l'antisémitisme nous a toujours perturbés, et on a toujours lutté contre, en faisant très clairement la différence entre antisionisme et antisémitisme, et en disant que la critique d'Israël était légitime et n'était pas l'antisémitisme, c'est-à-dire une forme de racisme. Cela dit, avec le temps, entre 2002 et aujourd'hui, ça s'est précisé. Ça s'est devenu une opération quasiment internationale d'assimilation de deux notions qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble, même s'il y a des gens qui ont envie d'assimiler ces notions parce qu'ils sont racistes. Je veux dire, il y a des antisémites qui utilisent l'antisionisme pour justifier leur racisme et le décorer d'habits tolérables, mais on parle d'une marge qui ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on est en train de diaboliser toute critique d'Israël en la traitant d'antisémite, et que c'est arrivé, et ça a été pour nous l'événement déclencheur quand même, hein, où on s'est dit là, il va falloir écrire. C'était la déclaration de Macron en 2017, oui, au Vélodrome d'hiver. Hein.
Nous ne céderons rien au message de haine, nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. Ça, c'était insupportable, voilà, pour nous.
On a aussi...
C'était à l'occasion d'une visite de Netanyahou.
Absolument.
Invitation très officielle de Netanyahou à la commémoration de la rafle du Veldiv. Mais en plus, ça a pris des proportions internationales, on le sait, avec la définition de l'antisémitisme produite par l'Alliance pour la mémoire de l'Holocauste, IHRA en anglais, oui, le sigle, a sorti une définition de l'antisémitisme qui est assez correcte, mais elle a été plus ou moins obligée, et parce qu'il y avait un lobbying pro-israélien très fort, d'ajouter une série d'exemples d'antisémitisme dans lesquels il y a des exemples de critiques d'Israël et d'antisionisme qui sont assimilés à l'antisémitisme. Et l'IHRA a fait voter pays par pays cette définition avec les exemples quand elle y arrive.
Et l'Union européenne a aussi voté la définition.
La mairie de Paris.
Et la mairie de Paris et une Strasbourg, de pays. Et puis des pays et des villes.
Ces pays, institutions, partout où ils peuvent, ils le font.
Donc, pour que cette définition soit adoptée.
Voilà. Et ça a peut-être culminé pour nous en France avec Macron, mais ailleurs, aux États-Unis, à cause de la guerre contre Gaza en cours, les députés viennent de voter de nouveau une pénalisation de l'antisionisme. Donc on est en plein dedans.
Ils s'en sont servis le 7 octobre. Qu'est-ce que dire que le... Bien sûr, c'est un acte de guerre.
Tous les paradigmes qui ressortent.
Voilà, tous les paradigmes qui sortent. Bon, c'est vrai que sans doute, il y a dans l'inconscient une crainte, mais je veux dire, l'analyse politique, il y a une crainte.
Très soigneusement entretenue.
Mais elle est entretenue.
C'est insupportable. Voilà. Insupportable, la propagande israélienne, comment elle fonctionne. Mais dans l'école, Nourit Pellet vient de sortir un article là-dessus, qui est quand même une chercheuse sur les manuels scolaires en Israël.
On l'a mis, je crois, sur le site.
Je crois qu'il est sur le site de l'UJFP, en français, où elle indique que dès l'âge de 3 ans, dans la première maternelle, on montre aux enfants des images de l'Holocauste et on leur fait peur. On élève les enfants et jusqu'à l'âge adulte, on les élève dans l'idée qu'ils sont
des survivants.
On n'est pas des êtres humains vivants, est des survivants d'une extermination contre laquelle on doit lutter en permanence parce qu'elle trouve toujours de nouvelles formes. Et toute nouvelle forme, toute attaque d'Israël et de ce qu'il fait est interprétée comme une volonté d'extermination.
Donc c'est très compliqué.
Dans la peur, dans la...
Voilà. Donc c'est une instrumentalisation.
C'est ce qui permet la théorie de la folie. Vous savez qui a été, dès 2009, Tzipi Livni disait... vous allez nous rendre fous et on va se battre comme des fous. Cette théorie de la folie, ça porte un nom, mais j'ai oublié lequel en hébreu, c'est celle qui est pratiquée en ce moment même par le gouvernement israélien. Attention, on va devenir fous et on va être immaîtrisables. Qu'est-ce qui le justifie? C'est qu'on est en risque d'extermination. Donc, tout est permis, tout est possible. Je crois qu'on va payer ce qui se passe, les Juifs.
Ah bah oui.
À cause de ce que Netanyahou et son équipe sont en train de faire en Israël, on va... D'abord, s'il y a, on est devant quelque chose qui ressemble à un génocide. La cour internationale de justice.
Voilà. Il y a une plainte par l'Afrique du Sud.
Il y a plus de 800 experts internationaux qui disent attention, ça ressemble à un génocide, on est en plein génocide.
C'est
in so many words, je veux dire. De tous les points de vue, à commencer par la déclaration clairement génocidaire des principaux acteurs israéliens. Absolument. Je veux dire, d'abord, ils ont dit qu'ils allaient le faire.
Et continuent à le dire, là.
En plus, il y a des pratiques qui sont génocidaires, il y a des chiffres qui commencent à être génocidaires, bref, tout y est. Si ça se matérialise et que ça aboutit, c'est déjà en cours, c'est horrible. Rendez-vous compte de l'impact que ça va avoir sur les Juifs, sur tous les Juifs, pas que sur les Israéliens, en France et ailleurs. Ça veut dire qu'on sera, à mon avis, au grand plaisir d'une grande partie des Occidentaux, un plaisir inconscient, mais il y a une forme de jouissance perverse dans ça. Si les Juifs arrivent à commettre un génocide, alors là, c'est merveilleux, quoi. La boucle est bouclée, terminée avec notre culpabilité, c'est eux, et ça a toujours été eux. Quelque part, il y a quelque chose, pour moi, de violemment antisémite dans le fait de laisser faire Israël. Et depuis longtemps, pas depuis le 7 octobre, depuis bien plus longtemps que ça. Israël, c'est vraiment... un enfant de la guerre qui est porté par des puissances occidentales qui agissent avec lui d'une manière très très équivoque, en fait, très équivoque.
L'assimilation entre Israéliens et Juifs, cet autre amalgame qui est très important et qui nous met dans une position justement compliquée. Et c'est pour ça qu'on dit par notre nom.
Parce que c'est un amalgame qui est porté par l'Occident.
C'est
plus,
un amalgame
c'est porté par Macron.
Tout à fait.
Quand Macron affirme sa solidarité avec les Israéliens du 7 octobre et avec les Juifs de la communauté juive française, il amalgame. Et le fait de dire antisionisme égale antisémitisme, ça amalgame juif et israélien. Moi je trouve que c'est pervers et un peu criminel aujourd'hui, parce que ce qui va se passer, c'est que on va morfler quoi.
Yeah, yeah, on vit cette chanson en Palestine.
Yeah. C'est une chanson pour tous les cœurs qui crient Palestine. C'est une chanson d'espoir, d'espoir. Ya Allah et Kéri.
Ya Allah.
ساكن في قلبي وقلبي عليك حزين والروح عليك تغني والدمعة تملى العين حبك ساكن في قلبي وقلبي عليك حزين والروح عليك تغني والدمعة تملى العين والروح عليك تغني والدمع تملى العين حبك ساكن في قلبي وقلبي عليك حزين والروح عليك تغني والدمع تملى العين
d'espoir, ya Allah, ya Karim.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre Béatrice Aurès et Michel Siboni, porte-parole de l'Union Juive Française pour la Paix, qui ont démontré la différence entre antisionisme et antisémitisme. Dans la période actuelle de la guerre à Gaza, cette notion est très importante, car cet amalgame est extrêmement dangereux.
Ça amène directement le Front National. Donc ils l'ont, leur Front National. C'est ce qui est en place aujourd'hui. C'est les colons, le gouvernement des colons, avec un corrompu à sa tête, etc. Et eux, ils n'en ont rien à faire de l'apartheid. Ils veulent l'évacuation, comment on dit, l'épuration ethnique.
L'épuration ethnique.
Ou le génocide s'il n'y a pas le choix. C'est-à-dire, on les vire tous dans le Sinaï, et s'il n'y a pas le choix, on les tue tous. Ils sont en train de les priver de nourriture, de communication, d'électricité, d'eau. C'est,
On voit bien que l'éradication du Hamas n'est qu'un prétexte pour bombarder à l'aveugle des civils, des enfants.
Absolument.
Aucun des objectifs de cette guerre ne peut être rempli, des objectifs annoncés. Donc le véritable objectif, c'est se débarrasser de Gaza. Ce qui nous renvoie à la grande phrase de Rabin, homme de gauche, sioniste de gauche, « Je rêve de voir Gaza englouti dans la mer » pendant les négociations d'Oslo. Hein. Pour le dire vite, les anticolonialistes israéliens, ça doit faire 10 000 personnes, ce qu'on voit dans les grandes manifs israéliennes. 10 000 personnes, ça ferait 100 000 ici, hein, si je rapporte
à la population.
Il y a à peu près 6,5 millions de juifs en Israël, 67 millions en France, on multiplie par 10, ça ferait 100 000 personnes. C'est pas magnifique, c'est pas négligeable. La question, c'est le contexte. Il y a eu un contexte dans lequel... Michel Barchavsky, reprenant une citation de Uri Avneri, disait « On est la petite roue qui active la grande ». Il parlait de ce mouvement anticolonialiste israélien, qui est la petite roue, qui avait réussi à activer la grande roue de la paix maintenant, on va dire, du grand mouvement de la paix maintenant, qui a fait sortir Israël du Liban. Il disait « On a été la petite roue, on a réussi à activer la grande ». Aujourd'hui, dans le contexte dont on parle, zéro. Il y a une petite roue collée au mur, il y a une répression de tout ce qui bouge, ils sont en train d'écrire des pétitions, les universitaires, en disant « On ne peut pas dire un mot ». Le mot « cessez-le-feu » vous vaut d'aller en prison quand même en Israël.
Quoi, ça a un petit peu changé, il y a eu une manif il y a quelques jours.
Il y a, ça commence à revenir.
Alors, on ne sait pas s'ils vont basculer vers... Ils demandent le cessez-le-feu, c'est notamment les familles des otages. Donc, on ne sait pas. Pour l'avenir, on ne sait pas. Ils risquent, on espérerait un basculement, mais on ne sait pas.
Alors, ce qui caractérise les mouvements anticolonialistes en Israël, c'est simple. C'est très simple. C'est le travail avec des Palestiniens. Ça a été. Alors, il y a des groupes qui ont vécu, qui ont été importants au début des années 2000, qui vivent beaucoup moins à cause du mur. Taïouche, c'était ça veut dire coexistence, mais dans un bon sens, parce que c'est osmose presque. C'était un groupe judéo-palestinien d'Israël qui était actif dans les territoires occupés, qui apportait une solidarité active dans les territoires occupés, qui a dû quasiment cesser ses activités à cause du mur, puisque le mur s'est construit depuis les années 2000 et empêche, il y a de moins en moins de facilité pour les Israéliens d'accéder aux territoires occupés. Mais il y a eu les anarchistes contre le mur qui avaient pris le relais, des jeunes très actifs, il y a eu un très beau film là-dessus d'ailleurs, Gaza mon amour, je crois que ça s'appelait, dont un des leaders est en prison parce qu'il il refuse tout accommodement qui serait dû à sa posture d'Israélien juif. Il veut être traité comme un Palestinien. Il y a Omdim Yahad, Standing Together, qui est un groupe important d'obédience communiste, hein, comme Taïouch aussi, hein, c'était dans la mouvance communiste, composé de beaucoup de jeunes. Si vous voulez, c'est clair aujourd'hui. Il y a ceux qui misent sur la séparation, voire l'épuration ethnique, et il y a ceux qui misent sur le maintien d'un lien avec les Palestiniens dans l'idée d'un partage. Ça n'a pas beaucoup changé depuis un siècle. Je m'entends dire et je me dis, c'est pareil, quoi. Ouais. C'est encore ça. Il y a tout un milieu intellectuel, universitaire, mais il y a aussi, on m'a dit le chiffre de 500 000 personnes qui ont quitté Israël depuis le 7 octobre.
500 000, c'est énorme.
Un demi-million.
Sachant qu'il y en avait déjà eu beaucoup dans les dernières années.
Globalement, il y a 1 million d'Israéliens qui sont partis, de ce que j'ai lu il y a 2-3 jours, je ne sais plus. Je sais pas, j'avais pas la date.
C'est-à-dire le sixième de la population, c'est quand même ahurissant. Ça aussi, c'est ahurissant que la presse ne le relaye pas. Ce n'est pas un détail mineur. qu'un sixième de la population ait décidé de prendre la porte, de lâcher l'affaire, ouais. parce qu'ils ne supportent plus ce qui s'y passe quand même.
C'est ça, le gouvernement israélien n'en parle jamais. C'est les chiffres qu'on...
Bah non. Mais ce sont alors ils sont obligés quand même parce qu'il y a des chercheurs qui ont ces chiffres et qui les disent, mais qu'il n'y ait pas de d'interrogation même à l'étranger, c'est pas rien ce qui se passe quand même.
Mais Warshawski, dans son petit bouquin là, il dit que il risque d'y avoir tous ceux qui sont contre la politique israélienne vont partir et il restera les extrémistes de droite et les fascistes. Qu'est-ce qui arrivera? Ce serait une des possibilités la pire.
Et les orthodoxes.
Et les orthodoxes. Bah,
parce qu'il y a aussi un problème de classe sociale. Hein. Oui. Y a ceux qui ont les moyens de partir et ceux qui les ont pas. Il y a ceux qui ont des passeports européens et qui les ont réactivés parce que toutes ces 20 dernières années, ça a été la ruée aux passeports européens. Roumain, polonais, hongrois.
Français.
Français, évidemment, ouais. espagnol, portugais, etc.
Selon l'origine de leur famille,
Ce qui montre d'ailleurs une confiance grandissante dans le sionisme et ses réalisations. Je veux dire, si on est en sécurité, je ne vois pas pourquoi on le fait. Donc, tout ça a explosé après le 7 octobre. Hein. C'est ce qui rend la situation si chaotique et incompréhensible vu de l'extérieur en Israël. Quoi.
Et puis les universitaires qui ont été censurés, il y en a aussi beaucoup qui sont partis enseigner dans des universités européennes, Australie, enfin vous avez tous les pays dont vous avez des textes.
Hein? Ilan Pappé, par exemple.
Oui. Et vous avez Ariella Aisha Azoulay qui est aux États-Unis, vous avez... Ila Dayan qui était Ila Dayan est en Pays-Bas, à Amsterdam. Enfin bon, pour en citer quelques-uns qui sont dans le livre, quasiment tous ceux qui ont une distance vis-à-vis du sionisme et qui ont un discours critique n'ont pas pu rester enseigner en Israël. Donc,
j'ai pas cité dans les groupes anticolonialistes et je trouve que c'est important de pas les oublier, c'est Breaking the Silence.
Et j'osais pas le dire parce que j'étais pas sûre.
Alors, parce qu'au départ, ils ne se positionnaient pas comme un groupe anticolonialiste. Voilà. Sauf que on s'est chargé de leur faire comprendre qu'ils l'étaient par la persécution. Tout arrive à qui sait attendre. Et donc, forcément, la situation s'est tellement radicalisée que même quand vous n'êtes pas un radical et que vous êtes dans cette situation, vous êtes obligé de vous radicaliser. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Et donc, ils ont eu des procès, ils ont été arrêtés, ils ont été empêchés de parler, etc.
Il y en a qui ont été en prison, je crois.
Oui. Tout ça étant basé sur... Breaking the Silence, c'est un groupe qui est né chez des soldats qui étaient envoyés à Hébron pour aider les colons à persécuter la population, qui en général se contentent de croiser les bras pendant que les colons tabassent les Palestiniens de Hébron et ne disent rien. Et une partie de ces soldats avait décidé à l'époque de faire une exposition de photos et de vidéos qu'ils avaient faites à Hébron. Cette exposition, ils l'ont faite dans Tel Aviv, au cœur de Tel Aviv, c'est-à-dire au cœur de la capitale objective du pays, en disant, et elle était motivée de cette manière, en disant, nous voulons que nos parents viennent voir ce que nous faisons à Hébron et nous disent s'ils sont d'accord pour qu'on risque notre vie pour ça. C'était à peu près le cadre de l'expo. À partir de là, ils ont développé des prises de témoignages de soldats. Soit frontales si les soldats acceptaient de ne pas être anonymes, soit
plutôt
anonymes.
Les réservistes, et puis surtout, non ?
Ça dépend. Alors, c'est sûr que les réservistes, beaucoup.
Ils peuvent plus parler.
Mais c'est pour ça qu'ils ont accepté l'anonymat, mais en posant des règles très très précises. Ce sont des gens, leur groupe de base, d'ailleurs l'un d'entre eux vient de mourir autour du 7 octobre. Je crois qu'il a été tué, je ne sais plus dans quel kibbutz, leur trésorier, je crois. C'est des gens extrêmement rigoureux. Très haut niveau intellectuel, genre des doctorants de machin, et très rigoureux dans leur pratique. Et là, ils recommencent en ce moment à accumuler des témoignages actuels de gens qui sortent de Gaza et qui témoignent. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux de d'horrible propagande de filmée par des soldats odieux, dans des situations odieuses, etc. On n'a pas encore entendu ceux qui sont allés, peut-être parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils étaient appelés et qu'ils n'avaient pas le cran de refuser, mais qui commencent à témoigner pour Breaking the Silence. Et à mon avis, ça, ça devrait faire du bruit.
Il y a le petit jeune là, qui a eu le cran de refuser d'y aller. Il y avait 200 lycéens qui, en août, avaient écrit une lettre qui disait qu'ils n'iraient pas. Alors, il n'y en a qu'un, officiellement, qu'on connaît, qui a refusé. Parmi les 200 lycéens, je ne sais pas si d'autres ont refusé.
Mais dans l'armée israélienne, il y a toujours eu ce qu'on appelle le refus gris, c'est-à-dire le refus déguisé.
On trouve un prétexte pour pas...
Énormément. Énormément de gens. D'ailleurs, ils ont de plus en plus de mal à parler des chiffres, parce que pas tout le monde a le cran de dire... parce que lui, il rentre en tôle pour un mois, mais ça va être conduit, ça peut être conduit pendant 3 ans. À l'époque, il y avait eu un des fils d'un grand militant, je ne me rappelle plus, c'était Kaminer, et il a passé des mois, voire quelques années en prison par son refus. Alors lui, le jeune d'aujourd'hui, là, il l'affronte, mais...
Les réfugiés, c'est ce qu'on appelle les réfugiés, et ils ont un problème après pour trouver du boulot, puisque s'ils n'ont pas fait l'armée parce qu'ils l'ont refusé, socialement, ils sont plus ou moins morts. Hein.
Vous avez entendu Béatrice Aurès et Michel Siboni, porte-parole de l'Union juive française pour la paix, nous parler de soldats israéliens qui sont conscients du désastre des massacres de Palestiniens, massacre qui leur est imposé par leur gouvernement, et qui tentent de protester. Mais il faudrait malheureusement qu'ils soient très nombreux pour qu'ils puissent avoir une influence sur Netanyahou. Netanyahou qui s'acharne dans sa guerre à Gaza pour rester au pouvoir. Alors, est-ce que l'opinion internationale pourrait avoir une influence sur l'issue de cette guerre? Quel est le rôle des médias pour informer les publics occidentaux? C'est la question qui a été posée à la journaliste du Monde diplomatique Meriam Laribi, le 14 février 2024, dans un entretien sur le thème « Gaza, le massacre sans limite ».
Et vous avez les médias français, les grands médias français, les grandes télévisions françaises, enfin grands par disons, la place qu'ils occupent et les financements qu'ils ont, hein, ils n'ont rien de grand, qui eux sont dans les spécialistes des contre-feux. Ouais. C'est-à-dire qu'ils passent sous silence totalement ce qui peut se passer pour les Palestiniens, c'est-à-dire il se passe rien en fait. Si vous regardez CNews, BFM TV, France Info, France Info très très étrange, France Info, la couverture de France Info de ce drame. Mais en fait, c'est les contre-feux initiés par les politiques, comme Stéphane Séjourné, comme Aurore Berger, etc. Et donc, ils veulent concentrer l'attention sur des polémiques autour du 7 octobre pour qu'on ne parle pas de ce qui se passe à Gaza. Et ils n'en parlent pas, en fait. Et ça participe au génocide, ça participe au blanc-seing qui est donné.
Mais au-delà de ça, on a des responsables politiques comme l'ancien président de la République, François Hollande, qui joue au petit jeu d'une vie, mais attention, une vie est une vie, mais on ne peut pas comparer les victimes du terrorisme des victimes de guerre. Et donc, les bombardements israéliens...
De
crimes de guerre. Mais lui, à chaque fois, il y a toujours cette petite rhétorique de dire, oui, d'accord, une vie est une vie, mais... Et là, ça commence...
C'est le racisme. On va être franc, c'est du racisme, clairement. C'est-à-dire que c'est le suprémacisme qui est pratiqué en Israël depuis 1948, qui est reproduit ici. C'est du colonialisme, c'est du racisme. Malheureusement, la France a une longue expérience colonialiste et le discours de François Hollande s'inscrit dans ce discours colonial, raciste, qu'un enfant ne vaut pas un enfant. Un enfant tué ne vaut pas un autre enfant tué. C'est-à-dire qu'un enfant palestinien n'a aucune valeur comparativement à un enfant israélien qui, lui, mérite toute l'attention. Il mérite toute l'attention, mais autant que tous les enfants palestiniens. Il y a 400 fois plus d'enfants palestiniens tués que ceux tués le 7 octobre. Le 7 octobre a été un massacre horrible, mais là, on a 400 fois plus d'enfants tués. Je répète, il y a 400 fois plus d'enfants tués. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait 30 ou 35 Les chiffres, je crois que c'est 35 enfants tués israéliens pendant le 7 octobre. Là, il y a 13 600 et quelques enfants palestiniens qui ont été tués depuis le 7 octobre en 4 mois. C'est-à-dire, quand on était juste à 3 500 enfants tués, ça c'était supérieur à l'ensemble des enfants tués annuellement dans le monde depuis 2019.
Myriam Larribi, journaliste au Monde Diplomatique, nous a donné son analyse sur le traitement médiatique de cette guerre de Gaza, notamment dans la presse française. Il faut souligner que le traitement sur Israël et le traitement sur la Palestine n'a jamais été équilibré dans les médias occidentaux. C'est pour cela que je vous invite à lire le numéro de février 2024 de Manière de voir, numéro du Monde Diplomatique intitulé « Israël-Palestine, une terre à vif ». Sur une centaine de pages d'informations récentes et de retours sur l'histoire à l'aide d'archives, il est possible de mieux comprendre le drame du peuple palestinien depuis 75 ans et aujourd'hui. Nous terminons cette émission avec la chanson « Pour Gaza » de Roger Vatter, ancien membre du groupe Pink Floyd. Alors je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
and the truth will set us free. The truth will set us free. Truth will set us all free. On that day, that the truth will set us all free on that day. And we shall overcome on that day.
Elle ne s'appelle plus Leïla, elle a un autre visage.
C'est un ancien ministre devenu candidat que tous attendent ce matin-là.
On va essayer de sortir. Pardon.
Monsieur Macron, s'il vous plaît, Monsieur Macron encore.
Un ancien banquier qui voudrait devenir président.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, oui.
À moins qu'une ligne de son CV ne fasse trébucher l'homme pressé, son passage par la banque Rothschild. Quand vos adversaires vous qualifient de candidat de la finance, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je pense que c'est triste pour eux. Ça fait 4 ans et demi que je ne suis plus banquier. Et quand je vois qu'on est encore l'ex-banquier, etc., on peut dire l'ex-ministre, on peut dire l'ex... J'ai été fonctionnaire plus longtemps que je n'ai été banquier.
C'est une question qui vous agace un peu.
Non, pas du tout. C'est une question que je trouve triste pour la situation démocratique, parce qu'elle est, elle renvoie aux pires années de la vie démocratique française.
Deux années passées au sein de la plus grande banque d'affaires d'Europe. Deux années à gérer des fusions-acquisitions et gagner des millions. Qu'il le veuille ou non, Emmanuel Macron incarne pour ses détracteurs la connivence de la classe politique avec la finance. Pendant plusieurs semaines, nous lui avons demandé un entretien sur sa vie d'avant, celle où il conseillait les patrons du CAC 40.
Des injustices qui explosent et une incompréhension face à tous ces changements.
La réponse a toujours été la même.
Nous pouvons le faire, nous, ici aussi, ce soir.
Emmanuel Macron n'évoquera pas son passage chez Rothschild. Quelle est donc cette banque faiseuse de rois sur laquelle l'ex-ministre reste si discret ? Dans l'Eurostar qui le conduit à Londres, le grand patron, David de Rothschild, se souvient de son ancien employé.
Talentueux.
C'est-à-dire ?
Très talentueux. Très talentueux, il est très intelligent, il est très agréable, il est très humain, il est chaleureux, enfin, il a des qualités intellectuelles et humaines très grandes. Et donc, il est normal qu'aujourd'hui, on parle d'Emmanuel Macron dans les journaux et pas de David de Rothschild.
Depuis 35 ans à la tête de la banque, David de Rothschild a toujours laissé les autres occuper le devant de la scène. Il a fait de la discrétion une seconde nature. Peu de photos, d'interviews. Aucune apparition télé. C'est la première fois qu'il déroge à cette règle de conduite.
Je crois qu'on ne perdure pas si on perd les repères. Alors, la gloire, l'excès de médiatisation, le devant de la scène, le m'as-tu vu, et à un moment donné, ça vous détruit. Et puis, si on s'était beaucoup affiché, Je ne suis pas sûr que complément d'enquête aurait eu envie de faire quelque chose sur nous.
Ah, vous pensez que c'est le secret qui suscite l'intérêt, ben, alors?
Je pense qu'un petit peu de réserve et un peu de pudeur ne fait pas de mal.
Ça attise la curiosité.
Peut-être, peut-être. Mais ne me faites pas dire que c'est une tactique.
En tout cas, nous, tout ce mystère, ça nous a donné envie. D'abord, il y a un nom. 10 lettres qui à elles seules sonnent comme un symbole. Celui de l'argent, de la finance et du capitalisme. Rothschild. Un patronyme légendaire dont même Hollywood a fait un film.
Heures, tous les juifs doivent rentrer chez eux.
L'histoire, il est vrai, est trop belle. Celle de juifs du ghetto de Francfort, devenus les banquiers les plus puissants d'Europe.
You are five brothers. I want you each to start a banking business in a different country.
Cinq frères, cinq flèches, blason aujourd'hui de la dynastie. 200 ans et 7 générations plus tard, les héritiers français habituellement secrets se sont laissés filmer. David, le leader incontesté de la famille, son jeune frère Édouard et leur cousin Éric ont accepté de lever le voile sur l'empire familial. Approcher les Rothschild, c'est pénétrer le Gotha. Des châteaux, des chevaux, des grands crus et des tableaux de maîtres. Et si la famille ne figure plus qu'au 100e rang des fortunes, elle continue d'incarner la France des nantis et de susciter jalousie ou envie.
Pour beaucoup de gens, ça signifie le fric, disons, parlons comme ça, ça signifie le fric. Et le fric, voilà, les gens n'aiment pas beaucoup ça.
Leur nom focalise une haine extraordinaire.
Riches, banquiers et juifs. De tout temps, les Rothschild ont subi des persécutions et sont la cible favorite des antisémites. Au cœur des théories du complot, leur domination sur le monde et leur pouvoir fantasmé.
Rothschild, argent, c'est un pléonasme. Rothschild, pouvoir, c'est un pléonasme.
De tout temps, les barons ont cultivé une certaine proximité avec le monde politique. De Georges Pompidou, directeur de la banque, puis chef de l'État, à Emmanuel Macron, jeune associé gérant, les Rothschild se sont imposés comme une institution de la Ve République.
On observe avec un grand sourire qu'il a certains de ses anciens collaborateurs qui sont l'un chez François Hollande et l'autre chez Nicolas Sarkozy. Là, je trouve que le mélange des genres devient...
Dangereux ?
Oui, dangereux. Dangereux pour la République.
Est-ce que c'est Rothschild qui cultive une certaine proximité avec le pouvoir ou les gens du pouvoir qui cultivent une certaine proximité avec Rothschild?
Dans le monde des affaires, on ne leur connaît aucun ennemi. Leur réputation est impeccable. Et si les Rothschild n'étaient pas que ces gentlemen de la finance?
On voit bien qui a payé la note et c'est certainement pas Rothschild, bien évidemment.
David against Goliath.
C'est David contre Goliath. C'est ça le scénario. Les pauvres et les vieux luttant contre une dynastie de financiers légendaires.
Portrait d'une famille et d'un nom au-dessus de tout soupçon.
Ça va, j'ai pas dit trop de conneries, non? Je veux dire, est-ce que j'ai dit des trucs que j'aurais pas dû dire?
Pour comprendre ce que la banque Rothschild représente aujourd'hui, il faut traverser la Manche. Se rendre à Londres, là où 500 banques se disputent la plus grande place financière européenne. Voici l'homme qui surplombe la City, à la tête de la première banque d'affaires du continent. Un siège à Paris et un autre ici, à Londres.
C'est une vue amusante de la City.
Pourquoi amusante?
Bah parce que c'est rare qu'il y ait des immeubles comme ça avec une terrasse. Bah, c'est une vue qui permet d'englober et d'avoir une atmosphère de la cité. Et on voit avec les grues un peu partout à quel point la cité est en effervescence et combien de gens construisent.
Comment vous imaginez Rothschild dans 100 ans?
Vous savez, il y a une expression anglaise, more of the same. C'est-à-dire plus de la même chose. Plus de compétences, plus d'approfondissement. En tout cas, on agit comme si elle allait toujours être là et il n'y a pas de raison de penser qu'elle va disparaître.
Rothschild, un nom qui ne meurt jamais. Aujourd'hui, le groupe pèse 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires et emploie 2800 personnes dans 43 pays, dont les États-Unis, l'Allemagne ou la Chine. Au pays des Rothschild, on conseille les grandes fortunes, les États et les multinationales. La banque, leader dans les opérations de fusion-acquisition, a géré l'an passé pour 225 milliards d'euros de transactions.
Nous sommes heureux de vous présenter notre société.
The Rothschild name is associated with strong values of a family-controlled business.
Dans ce film, à la gloire du groupe, on joue la carte de la réputation, de la respectabilité et de la famille. À 73 ans,